Haute fidélité, haute fidélité, haute fidélité, haute fidélité.
Qobuz, Qobuz Audio, le podcast audio de Qobuz. Je suis Patrick Pierre Garcia, je suis très très heureux aujourd'hui car je reçois un monsieur que j'avais envie de rencontrer depuis très longtemps, c'est Nicolas Bartholomé. Bonjour Nicolas, comment allez-vous ?
Ça va très bien, je suis ravi de vous rencontrer aussi.
Bah, c'est merveilleux. Alors Nicolas, je suis content de vous rencontrer parce que vous êtes pour moi un homme orchestre. J'aime les hommes orchestres, vous faites un peu tout à la fois. Vous avez votre propre label qui s'appelle Label Aparté, vous êtes un producteur, un ingénieur du son, un directeur artistique. J'en passe des meilleurs. Racontez-nous un peu votre parcours s'il vous plaît Nicolas. Quand avez-vous commencé ? Dites-moi tout.
Si je vous disais quand j'ai commencé, ce serait assez loin. Mais j'ai monté une société qui s'appelait Musica Numeris en 1990. En Belgique, puisque je suis belge.
Oh là là, mais vous osez l'avouer, c'est ça qui est beau, c'est que vous osez l'avouer en plus, c'est merveilleux.
On a tous un fond de belgitude. Ah,
je sais, c'est merveilleux.
Et cette société a eu pour but de proposer des prestations d'enregistrement et de direction artistique au plus grand nombre. Et on a eu pas mal de succès, on est devenu un peu leader, même leader en Europe dans notre activité. Je vais aller assez vite parce que sinon, je peux passer des heures là-dessus.
C'est très intéressant. Allez-y.
En 2000, on a eu l'idée de travailler de manière un peu plus internationale. C'est-à-dire, on s'est structuré avec des collègues qui étaient à Londres, d'autres qui étaient à Vienne, d'autres qui étaient à Berlin, pour avoir une sorte de vision un peu européenne du partage de matériel, du partage de compétences et de rapport aussi à une clientèle avec une même signature qui était celle de Musica Numeris. Mais dans le même temps, moi, en 1999, j'avais monté un premier label qui s'appelait Ambroisie, qui existe toujours d'ailleurs. Et le côté de la production du disque, je connaissais bien le côté enregistrement, montage, donc mais ce qui se passait de l'autre côté, c'est-à-dire aussi les gens qui mettaient parfois du temps à me payer, les gens avec lesquels je me battais pour...
On a dit que ça serait calme aujourd'hui, la discussion.
Mais je me suis dit que ce serait intéressant à un moment quand même de passer de l'autre côté et de voir un petit peu comment ça se passait aussi au niveau de l'édition. Et en 2006, Patrick Zelnick, de PDG Naïve, m'a proposé de racheter le catalogue Ambroisie à mes associés de Musica Numeris et de l'intégrer à Naïve à condition que je vienne avec le catalogue pour le développer en interne chez eux. Donc ça a été une expérience très intéressante puisque j'ai été vraiment plongé, j'étais tout seul pour piloter ce label. C'était pas toujours simple ni toujours facile, mais j'ai appris énormément de choses. Si ce n'est que j'ai toujours travaillé dans des petites structures dans lesquelles j'avais la possibilité de manager les choses moi-même. Donc même si Patrick Zelnick m'avait laissé une grande latitude, Naïve était quand même une grosse boîte. Donc au bout de 2 ans et demi ou 3 ans... J'ai eu l'impression que j'avais fait un peu le tour de comment marchait et comment fonctionnait la boîte. Donc j'ai voulu reprendre mon indépendance. Et donc j'ai trouvé un accord avec eux pour travailler comme extérieur. Donc j'ai remonté une boîte à ce moment-là qui s'appelait Little Tribeca. Donc pendant 2 ans, on a travaillé de manière très très régulière. Et puis d'un commun accord, on a jugé que c'était mieux de faire une petite pause. Et à ce moment-là, j'ai remonté un label qui s'appelle, dont le nom qu'on lui a donné, c'est Aparté. Donc ça, c'était en 2009. Aujourd'hui, en 2014, on a à peu près, je crois, on va arriver à la fin de l'année à 85 ou 90 références.
Mm-hmm. Donc, sont sur Qobuz d'ailleurs, parce que la plupart
sont sur Qobuz.
Sur Qobuz, parce qu'ils viennent le dire, vous êtes quand même chez Qobuz là.
Bien entendu.
Cœur de l'affaire.
Et dans le même temps, Patrick Zelnick, en 2008, est revenu vers moi en me demandant si j'étais d'accord de reprendre la direction artistique du label Ambroisie comme producteur exécutif extérieur. Ce que je fais, j'ai pas beaucoup le temps de le faire, mais bon, c'est moi qui, par exemple, amené chez eux la signature de Nikolaï Lugansky et des choses comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve un petit peu dans le même environnement que celui de Musica Numeris, si ce n'est qu'on n'est plus du tout européen, mais on travaille à une échelle beaucoup plus humaine. Et on a une société qui fait de l'enregistrement et de la direction artistique. On fait aussi du disque à façon pour certaines entreprises, pour des cadeaux de Noël. On a le catalogue qui existe et qui est là. On a racheté une société de production audiovisuelle aussi qui s'appelle Cahiers Carmen, avec laquelle on fait des belles captations de concerts et d'autres choses. Donc, on ne s'embête pas.
Voilà, vous êtes donc multipasse, comme je disais, vous êtes l'homme orchestre. Alors, j'ai cité des trucs tout à l'heure dans l'intro de cette petite interview en disant ingénieur du son, vous avez directeur artistique, votre label. Vous qualifieriez comme en fin de compte, quel est votre métier de base? Qu'est-ce que vous êtes en tant que professionnel à la base? Vous êtes tout ça ou vous avez quand même un truc qui est en exergue dans votre façon de fonctionner? C'est-à-dire vous êtes à la base plus un ingénieur du son ou un créateur ou un créatif, un gérant de label?
Je suis plus musicien et ingénieur du son, donc directeur artistique qu'autre chose.
D'accord.
Je suis un gérant de label par défaut et gérant de société par défaut aussi. D'accord. Mais parce que tout simplement, on n'a pas... on n'a pas les sous pour se payer un super DRH et puis un directeur financier et puis tout ça, donc on est obligé de faire ça nous-mêmes. Et finalement, je crois que quand on connaît bien le métier, parfois c'est peut-être même mieux même qu'on s'occupe de ça directement. On a des bons comptables qui sont là pour nous alerter quand les situations sont un peu dangereuses et borderline, mais bon, c'est pas trop souvent le cas, donc ça va bien.
Bon, la raison de votre présence quand même ici, chez Qobuz, aujourd'hui, c'est pour parler des Noces de Figaro, chez Sony Classical, que vous avez donc délivré, enfin, qui a été délivré en 24 bits, 192 kHz, en 5.1 canaux. Alors ça, pour certaines personnes qui nous écoutent, alors on dit de la musique en 5.1 canaux. Moi, le 5.1 canaux, je le connais pour le home cinéma ou dans les salles de cinéma. Alors vous, est-ce que vous êtes l'investigateur? Parce que c'est quand même le premier tir, si je peux dire, pour Sony Classical dans ce format, pour nous, pour Qobuz. Quel est votre avis, justement, sur le 5.1 canaux? Vous allez me dire que c'est formidable. Moi, je suis, en tant que journaliste, quand même un petit peu dubitatif, alors je joue l'avocat du diable, en disant le 5.1 canaux pour la musique, alors qu'au moment où actuellement dans le cinéma, les gens se recentrent vers du 2.1 ou du virtuel, vous vous lancez du 5.1. Alors moi j'ai besoin d'avoir connaître un petit peu le cheminement de votre pensée. Est-ce que vous pensez justement, est-ce que vous pensez tout simplement que le public va bien comprendre ce qui se passe au moment où dans le cinéma on part un petit peu en arrière chez les particuliers? C'est beaucoup de questions, hein, je suis comme ça.
Non mais écoutez, je pense que les réponses peuvent être assez simples. Je pense que tout est... la clé de voûte de tout ça, c'est la qualité d'une installation qu'on a chez soi et la qualité des haut-parleurs. C'est vrai que faire du 5.1 192 kHz sur les Noces de Figaro pour passer ça sur une installation de home theater, ça n'a pas tellement d'intérêt.
Il y a des home cinémas qui sont quand même des trucs qui sont très performants. Il y en a quelques-uns. Il y a des modèles home cinéma qui sont quand même
Oui, mais enfin, c'est quand même des haut-parleurs qui sont conçus pour le cinéma, avec des caractéristiques de réponse en fréquence et qui sont conçus pour le cinéma, qui n'ont pas la linéarité nécessaire pour être absolument parfait.
Je suis d'accord.
Alors maintenant, il y a toute une pédagogie à faire là autour, parce que déjà pour la stéréo, quand on va chez les gens, la plupart du temps, on a un haut-parleur derrière un rideau et l'autre dans la cuisine.
Pas chez les audiophiles quand
mais
même.
Non.
Arrêtez, Nicolas. Mais non.
Je parle de l'auditeur lambda. Je veux dire, les gens souvent chez eux ont deux haut-parleurs, mais n'ont même pas, ou parfois n'ont pas la place ou n'ont pas l'envie, parce que c'est pas, mais de pouvoir s'installer entre deux haut-parleurs et déjà former une image stéréophonique correcte. Mais il y a une communauté d'irréductibles passionnés pour qui la stéréo a un petit goût de trop peu, en ce sens qu'on a quand même une image, même si elle est bien enregistrée, même si elle est bien faite, et même si on peut l'avoir, comme c'est le cas sur le SACD, en deux canaux dans le format SACD, qui est à peu près l'équivalent du 192 kHz 24 bits. Donc on peut avoir un signal stéréo
en DSD
ouais. Et dans une qualité qui est quand même très très remarquable. Le fait d'apporter des informations qui viennent autour du spectateur, c'est un plus. Alors, je vais prendre des situations extrêmes. Quand on fait un enregistrement d'un orgue dans une acoustique exceptionnelle, dans une église, c'est vraiment le nec plus ultra parce qu'on est plongé.
C'est de l'immersion.
C'est exactement ça. C'est l'immersion totale. Tout à fait. Maintenant, si on enregistre un clavecin dans une salle relativement sèche, on peut se demander ce qui va arriver des canaux arrière. Donc là, il s'agit un peu de travailler et de savoir quand on fait une vraie prise de son 5.1 naturelle en salle, en captant les informations, et quand il faut essayer de la recréer en studio, parce que les conditions sur place ne permettaient pas de créer cette infrastructure 5.1 de manière correcte. Et nous, on est assez... comment dirais-je ? Moi, je suis assez cassant par rapport à ça, c'est-à-dire que je préfère faire en studio quelque chose de bien plutôt que de gaspiller du temps et des micros et de faire une installation en salle où les micros qu'on mettrait par l'arrière et tout le reste ne nous apporteraient pas grand-chose. L'avantage aussi étant du .1, c'est-à-dire que c'est un caisson grave dans lequel on peut récupérer des informations. Bon, c'est sûr que si on fait un disque de flûte à bec, on ne va pas le faire.
Oui,
on va
pas
le faire en
5.0, mais pas solliciter beaucoup.
On va pas sur le haut-parleur grave du plus 1 ne sera pas sollicité.
Il faut expliquer aux gens quand les 5.1 canaux, le 5, c'est 5 canaux, donc les enceintes classiques, et le 1, c'est le canal de grave.
Voilà, voilà. Donc 5, c'est 2, la stéréo 2
plus
normale.
1 plus 2 à l'arrière, voilà.
2 haut-parleurs comme d'habitude, 2 haut-parleurs derrière comme voilà. D'habitude aussi, plus un haut-parleur central.
Voilà, voilà, c'est ça qu'il faut expliquer.
Ça, c'est le 5, et yes. Le plus 1, c'est le
canal grave, voilà. Le
caisson grave. Donc, qui pour des enregistrements d'orchestre, de piano, ou tout ce qui a des fréquences qui peuvent se mettre dedans, dès qu'on peut y arriver, on gagne
en ampleur.
Vous sollicitez
tout de suite. Ça soutient le reste du spectre.
Voilà. Voilà. Mais encore, là, moi, je suis très, très, très dubitatif parce qu'il y a des caissons graves qui sont de très, très bonne qualité, il y a des caissons graves qui sont de très mauvaise qualité et que les gens règlent extrêmement mal.
Et ils veulent entendre le grave, donc ils poussent tout à fond.
Donc, ils poussent tout à fond, ce qui veut dire qu'on entend du grave, mais on n'entend plus l'aigu.
Exactement, le reste est noyé.
Et on n'entend plus qu'un caisson grave avec quelques petits gémissements.
Voilà, quelques petits couinements, je dirais un côté un peu de loudness. C'est-à-dire, c'est horrible.
Voilà, exactement. Ça, c'est horrible.
Nicolas, je vous arrête un petit peu, mais vous avez fait combien d'enregistrements en 5.1 dans votre carrière? Vous avez commencé il y a combien de temps à faire les enregistrements en 5.1
Avec Jordi Savall. Avec Jordi Savall, on a commencé à faire des enregistrements en 5.1. Je pense que c'était en 97, 98.
D'accord. Vous avez quand même, entre guillemets, un peu essuyé les plâtres. Parce que c'est quand même
quelque chose... Ah oui, vous
avez cherché quelque chose. Parce que le 5.1, pour les Kidam, qu'on en avait parlé tout à l'heure, c'est vraiment le cinéma. On ne pensait pas trop que la musique était impactée à ce point-là. Je suis très, très heureux de vous recevoir justement à ce propos. Est-ce que vous pensez, vous, actuellement, aujourd'hui, en 2014, que le 5.1 va se généraliser si on lui donne un petit coup de pouce, ou c'est quelque chose qui va rester, malgré tout, une petite niche dans le domaine musical?
Moi, je pense que c'est quelque chose qui va se généraliser. Je pense que c'est quelque chose qui va même s'étendre. Puisque de plus en plus, même dans nos métiers, on nous parle de mixage en 7.1 maintenant.
Oui, tout à fait, au cinéma.
En cinéma, et au cinéma, il y a même le Dolby Atmos maintenant.
Il y a une Atmos avec 128 objets.
Plus d'une centaine de 128.
Exactement.
Haut-parleurs. Donc là, je ne crois pas qu'on arrivera en musique classique à faire...
C'est peut-être pas le but de la manœuvre en même
temps. Non,
mais... Vous n'êtes pas en train de mixer Transformers, vous prenez... Non, mais oui, vous travaillez sur quelque chose de différent, non, votre matériau
est différent. Il y a peut-être moyen de mixer une bonne prise de son multipiste pour la faire sonner dans une salle de Dolby Atmos, mais là, c'est plutôt l'art du mixeur.
Oui, parce que ce sont des vecteurs, après, on donne des directions d'objets dans l'espace.
Voilà, donc, mais en tout cas, avoir 128
directions,
128 micros qui sont là pour prendre des micro-informations
4 fois 2.
Et puis les
non, il n'y a pas 128 micros, il y a une prise de son et après un travail sur des vecteurs où on va diriger les objets, spatialiser les objets.
Je caricaturais.
Mais vous avez bien fait, Nicolas, c'est moi qui complique les choses. Donc pour vous, le 5 points va généraliser. Mais il y a un truc qui me... Je reviens dessus, je suis désolé parce que je suis comme l'avocat du diable. Vous dites que ça va généraliser, mais j'ai l'impression justement que derrière, les consommateurs, enfin le public, n'est pas tout à fait enclin à s'entourer d'enceintes. Ils s'en entourent de moins en moins. Est-ce que vous avez remarqué ça ou est-ce que vous pensez, continuez à penser que les audiophiles, grâce à ce que vous pensez être une certaine direction vers le 5 points, vont avoir envie de s'équiper avec de multiples enceintes haute fidélité, avec un système et tout ce qui va avec, ou continueront à plébisciter quand même malgré tout la stéréophonie avec des très gros systèmes de stéréo?
Je pense que ce qui gêne beaucoup de gens au départ par rapport au 5.1, c'est tous les câbles qu'il faut, qui traversent,
c'est vrai,
qui
en
sont
même
derrière.
Temps, vous savez que c'est vrai.
C'est absolument vrai. Alors, même si c'est encore pour l'instant antinomique de qualité, il y a maintenant des systèmes de plus en plus qui se développent avec des relations Wi-Fi, Bluetooth.
En Bluetooth, APTX,
oui. Et d'autres choses qui permettent quand même de garder un... Pour l'instant, on perd en qualité. On peut espérer qu'avec le développement des technologies, on puisse... il y a quelques années, quand on faisait du téléchargement, on pouvait télécharger du MP3. Aujourd'hui, on télécharge du 5.1 en 192.24.
On met beaucoup de temps quelquefois, mais on le télécharge dans tous les cas.
Ça dépend où on habite à Paris.
Voilà, ça dépend où on habite, en Paris ou en banlieue. Alors là, dans ce cas-là,
J'ai un ami qui habite dans le centre de Paris, qui a la fibre optique avec 200
mégas. Vous parlez des nantis.
Là où on est, nous, on est à 12.
Ouais, mais c'est pas le cas de tout le monde. Non, mais je comprends. De toute façon, nous, vous pensez bien qu'à Cobos, on est pour ce genre d'initiative, on est pour le 5.1, on est pour le 24 bits, le 192. C'est un truc. Le truc, c'est qu'il faut toujours arriver à se mettre à ce qui est en face de nous, c'est-à-dire le public, arriver à faire passer le message. Est-ce que vous, en tant qu'entité, avec votre label, donc Aparté, vous avez des messages que vous envoyez donc aux consommateurs ou de moyens de promotion pour dire voilà, ça existe, voilà comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez quelque chose qui permet de promotionner vos idées, des vecteurs?
On vient de récupérer une grosse base de données. Justement pour pouvoir pas vraiment faire un blog, parce que c'est pas ça qui... Mais pour diffuser des newsletters par rapport aux productions qu'on fait et de mettre un accent spécifique, puisque c'est notre travail, sur la qualité du son et sur le fait que les produits existent en 5.1. Et en essayant d'en faire une douce apologie. C'est-à-dire, on ne veut pas non plus avoir l'air d'être des guerriers en disant qu'il n'y a que le 5+1, parce que sinon, notre stéréo n'est pas au point. Mais pousser les gens à entendre de la musique avec plus de confort et plus de plaisir, c'est quand même le but métier.
Ici.
Exactement.
On est là pour ça. C'est le truc. Alors, quand vous faites une prise de son, parce que là, je me pose en tant que béotien et les gens qui nous écoutent aussi, est-ce que vous avez rencontré... Quels sont les pires écueils techniques que vous rencontrez pendant une prise de son en 5.1? Quelles sont les choses où vraiment vous dites, alors là, vous avez connu des cas de figure dans votre carrière, vous dites là ça va être difficile, quelles sont les choses
c'est
les
ce
plus
que
compliquées?
C'est ce que j'essaie de vous dire tout à l'heure,
c'est qu'on est
assez tranché, c'est-à-dire que quand on a une acoustique qui est vraiment une acoustique intéressante, qui a des caractéristiques qu'il faut absolument pouvoir reproduire de manière naturelle, on fait la prise de son en 5.1. Dès qu'on arrive dans une salle qui n'a pas d'acoustique ou rien de riche, on préfère recréer ça en studio après en faisant avec des algorithmes qui sont les nôtres, mais qui donnent un confort d'écoute et une couleur beaucoup plus intéressante.
Ça dépend de l'instrument ou pas du tout? C'est-à-dire,
ça dépend réellement de l'instrument. Bon, par exemple, ça nous est arrivé de faire un violon, un violon baroque solo dans une très jolie église, et de le faire réellement en 5.1, parce que là, vraiment, l'acoustique était absolument magnifique. Et ça nous est arrivé d'arriver dans une salle pour faire un piano où l'acoustique est tellement pas intéressante et sèche. On sait déjà qu'on va devoir rajouter une réverbe artificielle sur le signal stéréo pour pouvoir le rendre intéressant. Donc, le 5.1 a capté naturellement dans cette salle-là. Ça n'a absolument aucun sens, quoi.
Sapevo che canto stesse bene. Oh, in verità, egli fa tutto ben quello che fa. Presto noi, bel soldato, Figaro vi informò tutto vedesse. Lasciatemi veder, andrà benissimo. Siamo d'uguale statura, giù quel matto, che fai? Niente paura, e se qualcuno interrasse? Entri, che mal facciamo? La porta chiuderò. Come puoi conciargli i capelli? Un la mia cuffia, prendi nel gabinetto. Presto! Che carta è quella?
La patente!
Che solleci d'accente!
Le bureau da basilio!
Dalla fretta ho pliato il sigillo!
Il sigillo di che?
Della patente!
Aspetta che premura!
Donc pour le moment, quels sont aujourd'hui, Nicolas, quels sont les projets qui vous tiennent à cœur, par exemple, sur les 6 mois ou un an à venir? Vous avez des trucs en tête que vous pouvez nous dévoiler, soit une captation, soit des trucs, une évolution encore de la technique que vous employez au niveau de la captation en 5.1 ou en stéréo?
Il y a une chose qui est passionnante, c'est qu'on a eu un premier rendez-vous avec ces Noces de Figaro et Théodore Coensis, ce que vous avez présenté être la première expérience de Sony par rapport à
Cobuzz. Sony Classical, en tout cas.
Sony Classical, voilà. En 192, 24 bits, 5.1. On a enregistré déjà, on a fait un deuxième enregistrement après les Noces de Figaro, c'était l'hiver passé, on a enregistré les Noces. Et on a essayé de faire du progrès de l'un à l'autre en réécoutant ce qu'on avait fait, au niveau prise de son, au niveau richesse des timbres, au niveau positionnement dans la salle pour que les instruments réagissent le mieux possible. Et on va encore avoir une troisième possibilité, c'est-à-dire on va enregistrer Don Juan en septembre-octobre, à cheval sur septembre-octobre d'ailleurs. Et là, ça va nous donner l'occasion ultime d'aller au bout de nos... au bout de nos rêves, parce que c'est la dernière fois qu'on fera en tout cas cette trilogie d'Aponte, aura un point final à ce moment-là. Et je pense qu'on est déjà en train de réfléchir à des infrastructures complémentaires, à des modifications de micro et toutes sortes de petites cuisines internes pour essayer de rendre le Don Juan. Disons qu'on est parti du seuil A avec Figaro, on va essayer d'arriver à un niveau B avec Cosi et à un niveau plus ultime au niveau de la restitution du son en 5.1, 192, peut-être en 384.
Justement, c'est la question que plus souvent que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous allez encore faire grimper ça en 32 bits, en machin? Est-ce que vous pensez qu'on peut aller beaucoup plus loin? Est-ce que vous le désirez?
On peut aller plus loin. Le problème qu'on a à ce moment-là, c'est dans la gestion des sessions d'enregistrement, parce que faire un piano en 384 kHz, 32 bits, ça peut se faire. Ça ne pose même aucun problème. Quand on commence à travailler avec 38 ou 40 pistes, là-dedans, il faut des sacrés bécanes pour gérer tout ça. Pas au moment de l'enregistrement, parce que c'est très fluide, mais au moment du montage, quand on fait une post-production un peu fouillée, comme c'est le cas avec Théodore Coensis, qui ne laisse absolument rien passer, et il a raison d'ailleurs, on fait vraiment un travail de mixage, on a besoin d'ordinateurs vraiment et de capacités mémoire qui aujourd'hui sont... même si l'informatique s'est fortement développée, reste un petit peu les limites, quoi. Donc, en fonction du développement et de la facilité, parce que c'est vrai que passer du temps en post-production avec des machines qui se plantent tout le temps parce que les capacités mémoire ne sont pas suffisantes pour gérer les projets qu'on doit faire, mais attendre 20 minutes qu'une session s'ouvre tellement elle est riche d'événements et tout le reste, ça n'a pas tellement de sens. Donc, pour l'instant, on parvient à le faire en 192-24, jusqu'à 40 pistes, ça marche. Donc, doubler ça, je crois qu'on va... Il faut d'abord aussi qu'il y ait des convertisseurs qui puissent le faire. Hein. Nous, on a d'excellents convertisseurs, mais les convertisseurs qu'on a, qui sont des convertisseurs Audio Research, chez nous, nous permettent d'écouter du 96 kg. Donc le 192, on l'écoute en direct en sortie de machine avec des convertisseurs qui sont moins élaborés que ceux qu'on a. Mais il faut savoir que chaque fois qu'on a un composant chez nous, il faut le multiplier par... qu'on fait du 5 plus 1, ce n'est pas deux convertisseurs dont on a besoin, mais c'est 6. Donc quand il faut remplacer les 6, c'est un sacré investissement.
Je vois. Je vois le truc. Petite question encore, on va encore passer un petit moment ensemble. Vous n'êtes quand même pas nombreux en France à avoir ce genre de philosophie, de politique, de respect de la musique. Vous avez, entre guillemets, des concurrents qui font ça, parce que nous sommes un peu curieux ici à Cobuzz, parce que là, on vous reçoit, on est très très contents, mais on a quand même très peu entendu parler d'autres bipèdes que vous, pour s'acharger à des choses. Vous avez des concurrents qui utilisent peu ou prou les mêmes recettes, ou est-ce que vous êtes quand même un cas unique, un homme orchestre?
Je crois qu'on a quelques collègues maintenant qui soient aussi aussi variés dans leurs activités. Ça, je ne sais pas.
C'est ça que je suis en train de vous dire.
Et puis, nous on est un peu gourou. C'est-à-dire que, par exemple, l'opéra de Mozart qu'on a fait là avec Corenzi, c'est Noces de Figaro. Moi, je suis j'ai été un adepte de la prise de son avec deux micros. En travaillant notamment avec Saval sur une centaine de projets, en partant du principe que c'était la seule manière de faire du son de manière absolument naturelle. Faire un opéra avec deux micros, si vous arrivez avec ce matériel-là, vous reprenez l'avion le lendemain et ils appellent quelqu'un d'autre parce que c'est sûr que c'est absolument impossible. Donc il a fallu qu'on trouve, il a fallu que je me persuade de trouver un système qui permettait de mixer plusieurs sources sonores tout en gardant le naturel qu'on avait avec un couple. Et ça, je l'ai trouvé et on est certainement les seuls fous à utiliser quand on fait une prise de son avec 40 micros, 40 micros de la même marque. C'est des micros danois qui s'appellent DPA ou Brulecker à l'origine. Au départ, c'est des gens qui fabriquaient les membranes pour les sismographes. Donc, c'est des micros qui sont complètement neutres, qui ne colorent absolument pas.
Ils sont analytiques.
C'est le contraire du gros micro qu'on voit, des vieux micros de studio qu'on met dans les pianos pour faire
ça avait son charme en même temps.
ça a son charme. Et ça continue à avoir son charme pour un certain type de boulot, mais pas pour ce qu'on fait nous en prise de son live sur le terrain, sur lequel si on a une chanteuse qui a une voix d'une certaine couleur, on va pas essayer de la transformer, donner un peu plus de grave ou d'aigu parce que ça nous plaît. Donc sur ce plan-là, on est les seuls, quoi. On est les seuls fous à s'amuser, à se balader avec 40 micros de la même marque pour mixer et pour travailler, pour enregistrer.
Nicolas, un dernier mot, parce qu'on va vous laisser là. Moi, j'étais absolument ravi de vous recevoir, parce que c'est quand même... Je reçois un homme orchestre, vous savez un peu tout faire. Donc, on attend avec impatience la suite de vos projets, qu'on espère retrouver sur Qobuz, donc en 24 bits, 192 kHz et en 5.1 canaux. Donc, vous y croyez à mort, on y croit à mort, on va le faire ensemble. Et on se voit bientôt.
On se voit très bientôt, et je vous remercie de votre invitation.
Merci, Nicolas. À très vite.
À bientôt.
Au revoir.
Guardate queste femmine, guardate cosa son, guardate cosa son, guardate, guardate cosa son. Queste che amate te, tra gli ingannati sensi, a cui tributa il gente, la debole ragion, la debole ragion. Che incantano per farci penar, si vede che cantano per farci affogar, civette che alettano per trarci le piume con me, che brillano per toglierci lume, cose spinose, su volti pezzose, su morse belle, colombe maligne, maestre di canni, vite da fami che vivono, mettono amore, non sento pietà, non sento pietà.
Haute fidélité, haute fidélité, haute fidélité, haute fidélité.